Europe 1. La libre antenne, Sana Blanger.
Et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1 et j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien, vous le savez, la libre antenne est votre émission. Alors ce soir, pour nous inspirer et terminer la semaine en beauté, j'ai choisi le mot « chance ». Est-ce qu'avoir de la chance, c'est lorsque tout vous réussit ? Alors c'est le bonheur, même si vous n'avez pas gagné le gros lot du loto. Mais quand la chance vous quitte, vous rencontrez des échecs à répétition, diriez-vous que c'est le malheur qui vous tombe dessus ? Finalement, est-ce que la chance, ce n'est pas plutôt de savoir susciter et surtout identifier le positif de la vie ? Si vous savez mettre la chance de votre côté, dites-nous comment vous faites. Appelez-nous au 3921 et il y a de la place ce soir pour partager votre avis et également nous raconter vos expériences, vos histoires de vie, vos coups de cœur et vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qu'est la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 73921 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr. Adrien et Bastien s'occuperont de vous au standard du 3921 et c'est Laurent Pellet qui réalise l'émission ce soir. A tout de suite.
La libre antenne sur Europe 1,
Sana Blanger.
Comme promis, nous accueillons Kevin, avec qui nous avions terminé l'émission hier soir à minuit. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Sana.
Comment ça va depuis hier ?
Ça a été très dur.
Ça a été
vraiment très dur. Après cette émission, j'ai été partagé par des émotions vraiment extrêmes, d'euphorie et de tristesse.
Alors de tristesse.
Il s'est passé quelque chose de très particulier.
Oui.
Je voulais vraiment faire la parenthèse là-dessus avant de commencer mon histoire. Mm-hmm. Enfin, avant de pas commencer mon histoire, mais de répondre à vos questions. Ce matin, j'étais en train de regarder sur les réseaux sociaux. J'ai les messages par rapport au post que j'avais mis. Et notamment, j'avais mis le podcast du 14 février.
Ouais.
Et dans un commentaire, il y a une fille qui a mis qui a évoqué que mon oncle s'était pendu parce que j'en fais référence dans mon témoignage. J'ai un oncle qui est un peu comme moi, enfin, et qui s'est suicidé. Il avait à peine 20 ans, je pense. Et quand j'ai lu ce message, moi, on m'avait dit que c'était au barbiturique. C'était un secret de famille, qu'il y avait une overdose de médicaments, c'est tout. Il n'y a même pas de nom et de prénom sur sa tombe. Et quand j'ai vu ce message, putain, j'ai pleuré.
C'était le fameux secret de famille dont vous avez parlé, votre grand-mère, que vous évoquiez hier soir ?
Non, c'est un autre secret de famille. Oui, mais c'est le secret de famille. Enfin, c'est un secret de famille parmi d'autres.
Ouais. Alors Kevin, on va recontextualiser pour les auditeurs qui nous
rejoignent
et qui nous écoutent ce soir.
Je voulais juste terminer ma phrase.
Bien sûr.
Cet oncle était autiste. Et s'il s'est suicidé, c'est parce qu'il était mal compris. Et donc moi, ce podcast, mais vraiment, c'est pour que ça serve à tous ces enfants qui, dans leur sensibilité, ne sont pas respectés, qui sont autistes, qui ne sont pas comme les autres et qui ont du mal dans la vie. Et c'est mon témoignage. Voilà.
Alors justement, donc, Kevin, vous nous avez contacté hier pour presque crier aux personnes qui nous entendent, qui nous écoutent, de dire s'il vous plaît, ne nous stigmatisez pas, ne nous ostracisez. Enfin, parce que vous êtes victime d'ostracisme, hein,
c'est ce que vous disiez. Absolument, c'est quelque chose qui est horrible dans ce genre de situation.
Et
donc moi, Moi, personnellement, hein, donc j'ai été traîné dans la boue pendant des années, d'abord dans un premier temps parce que mes parents ne croyaient pas en moi ou me présentaient comme un handicapé, n'avaient pas compris que j'étais autiste et donc que j'avais des douances que je découvre aujourd'hui. Donc,
Douance, alors faut
d'abord, donc,
expliquer, hein. Douance, c'est doué, donc
oui, voilà,
de
j'ai
surdoué,
une douance par
voilà.
rapport aux couleurs et par rapport à l'écriture.
Oui.
Et donc mes parents m'ont présenté comme un espèce d'attardé mental à l'extérieur, sans comprendre que j'étais un autiste. Et moi, ça m'a amené aux pires difficultés dans ma vie. Et puis ensuite, j'ai été calomnié. Et mes parents, comme ils ne me croyaient pas, ils m'ont poussé vers l'hôpital psychiatrique, plutôt que de me défendre bec et ongles pour mettre le problème sous cloche. Voilà, mais on ne va pas revenir sans cesse sur l'histoire, mais c'est dégueulasse, quoi.
C'était juste pour réexpliquer et surtout donner du sens à votre appel, à votre témoignage
J'entends.
et surtout au sens
J'entends bien.
aujourd'hui que vous donnez à votre vie, puisque maintenant, c'est presque chevillé au corps que vous prenez ce combat et
Oui.
que à travers à la fois l'écriture, qu'est-ce que vous faites d'autre également, Kevin, pour justement... Je dirais transmettre la parole.
Mais pour l'instant, non. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Je suis complètement ostracisé. Je vis une détresse totale. Vous devriez voir mon appartement. J'ai les sens dessous. Il y a presque de la bouffe par terre. Je suis complètement isolé et en souffrance. Et quand j'envoie des messages d'appel à l'aide, on m'a tellement stigmatisé, si vous voulez. On a tellement considéré cette souffrance comme un poids que les autres, mais ou me rejettent ou me bloquent. Donc j'appelle à l'aide. J'ai envoyé, je sais plus, il y a une semaine passée, j'ai envoyé, mais en disant, mais postez ce podcast qui dit la vérité, postez la personne. Et j'étais là en train de sombrer. Voilà.
Est-ce que vous voyez quand même, vous nous aviez dit hier soir que vous voyez un psy?
Absolument, je vois une psychologue. Oui.
Est-ce qu'elle est au courant de entre guillemets, là, c'est pas une crise que vous faites en ce moment, mais vous êtes encore plus sensible que d'habitude, peut-être?
Non, pas du tout. Non, non,
Non?
non, absolument pas. Non, 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 non. Non, ce que je vis est réel.
Ah
Je
oui.
suis ostracisé, je suis calomnié, j'ai été calomnié. Et donc, j'ai tout plein d'étiquettes à cause d'un garçon qui n'a pas su se défendre en société comme il fallait. À cause de cette éducation. Et ma thérapeute, en même temps, mais voilà, elle a fait un chemin avec moi
Oui.
qui m'a fait découvrir l'enfant que j'étais. Et ça m'a redonné une puissance, une force.
Donc
Et donc
hyper.
c'est pour ça que je veux changer de prénom. Je veux me débarrasser de
Absolument.
ce passé qui n'était pas mien. Et je veux afficher à la société le meilleur de moi-même. C'est-à-dire mon talent, mon écriture, mes photos. Mais je veux sortir du carcan.
Est-ce que vous avez
Parce que c'est une
conscience,
prison.
Kevin, est-ce que vous avez conscience que
Oui.
plus vous vous exposez et plus forcément il faut faire face à des réactions, à de la méchanceté, à plein de
C'est
choses en
terrible.
fait?
Mais regardez vos forums.
Ouais.
Regardez ce que les gens écrivent sur vos forums, putain. Je vois des messages ici sur le forum, mais c'est malveillant. Des gens qui cassent, qui négatifs, qui ont plein de préjugés et qui même n'ont même pas écouté les témoignages. Enfin voilà. Bien
Alors,
sûr qu'on est plus sensible à tout ça.
je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de m'écouter, mais je suis comme vous, en fait. Moi, je suis une hypersensible également.
Non, mais ça, j'avais compris, oui.
Ce qu'on appelle le zèbre également, donc HPE, haut potentiel émotionnel. Alors, vous savez, moi, je ne lis aucun, mais aucun réseau. Rien. Je ne lis pas. Je ne cherche pas à savoir ce qui est dit sur moi. La seule chose que je lis, ce sont
Non,
les
mais ça, j'ai
SMS.
encore du mal parce que non, 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 franchement, j'ai encore du mal parce que, avec le passé de mon ancien prénom, hein, François,
Oui, François.
je vous assure qu'il porte de grosses et solides casseroles sur les épaules qui sont bien lourdes, hein,
Certes,
et qui arrangent tout le monde.
mais si
Mais moi,
vous...
je veux m'en débarrasser, voilà. Et
Je
je veux
j'entends.
m'affirmer comme Kevin.
J'entends, Kevin, et ce que je vous dis, c'est que si vous voulez vous en débarrasser, la première des choses déjà, c'est de ne pas vous confronter. N'allez pas, ça ne sert à rien d'aller de regarder, manifestement, puisqu'aujourd'hui vous n'en êtes pas encore en capacité de pouvoir le faire, de regarder dans le rétroviseur si François aujourd'hui vous rappelle trop.
C'est Kevin. Non, maintenant aujourd'hui c'est Kevin. Et
oui,
Kevin est dans les projets.
Et c'est ce que je vous dis. Je vous dis que si François, pour vous, c'est trop compliqué de regarder dans le rétroviseur de François, eh bien regardez
Devant.
Regardez devant.
Exactement. Exactement. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, j'ai un talent, madame. Enfin, j'ai un talent. J'ai un talent et c'est ça que je ne comprends pas. J'ai dans la situation où je suis, j'ai un talent qui a envie de sortir, qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'offrir plein de choses. Et en même temps, je me sens dans un carcan. Et c'est pour ça que je suis là sur antenne libre. C'est pour le dire et affirmer qui je suis.
Alors, vous avez besoin de quoi pour avancer? Vous avez besoin de quoi pour vous
J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de gens qui voient mon écriture. J'ai besoin de gens qui prennent du plaisir à m'accompagner quand je prends des photos. J'ai besoin de me sentir aimé. J'ai besoin de me sentir respecté. Pour ce que je suis et tel que je suis aujourd'hui. Et je vous assure, c'est un chemin et il est extraordinaire à faire, ce que j'ai fait.
Donc, qu'est-ce que vous avez mis ou qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour recevoir, justement, de la reconnaissance, de l'admiration, du soutien, de l'encouragement, enfin voilà.
Exactement. Et moi, j'ai toujours dit, hein, et ça transparaît dans mon podcast du 14 février, qui est très beau, parce qu'il y a énormément d'émotions quand je le dis. Mmh. J'ai toujours dit que dans ma vie et moi, il y avait deux piliers. Dire ma vérité. Dire ce que j'ai vécu. Me débarrasser d'elle. Me libérer d'elle. Et vivre mes émotions. Et c'est ce que je fais là, à l'instant où je vous parle. Je dis ma vérité. Et je dis qui je suis. Je suis Kevin.
Je pense que
je me suis débarrassé de François.
Oui.
C'est bon ?
Est-ce que vous avez effectué un rite pour marquer la naissance de Kevin avec votre psy?
Quand est-ce que vous avez Kevin est né.
Il est né
quand Kevin est né, j'en sais rien, je sais pas.
Et ben justement.
Il y a eu ce podcast qui était extraordinaire. Alors on pourrait dire que Kevin est né durant ce podcast. Il y a eu cette hypnose que j'ai fait entre-temps et c'était pour ça que je suis venu pour vous en parler. Donc une hypnose qui était incroyable. Est-ce que je vous en parle ou pas, vous? Est-ce que je...
Ah bah,
je
bien sûr, puisque en fait nous avons été, on manquait de temps hier soir, c'est surtout ça.
Oui. Okay.
Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quels ont été finalement votre plan d'action ou vos plans d'action pour pouvoir...
Mais je pensais que je pouvais parler de mon hypnose.
Enfin, oui, justement.
Que... Ok, d'accord. Mais je peux en parler?
Bien sûr.
Ok. Parce que je dirais, après je vous parlais de ce que j'ai mis en place des beaux projets.
Très bien. Alors commençons par cette séance d'hypnose. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vous en prie.
Il y a aussi une autre naissance, mais une autre possibilité de naissance. Je ne sais pas laquelle choisir. L'hypnose, je dirais, ça s'est passé dans des conditions étranges. Je dirais, la veille, je vous ai raconté l'histoire de ces gens qui likaient, mettaient des loves sur ma situation, sur les réseaux sociaux, avec l'image d'un petit garçon tout triste et une fille qui se débarrasse en disant qu'il est hypersensible à la douleur. Et mes amis avaient mis des loves, des cœurs. Mmh. Et j'étais en train de sombrer et d'appeler à l'aide. Ils n'en avaient rien à foutre, ils en rajoutaient plus. Et c'était tellement violent que j'aurais pu en mourir, j'ai eu l'estomac complètement bloqué. Et c'est le lendemain que j'ai été... faire cette hypnose.
Sous
donc,
les conseils.
Je suis arrivé là-bas.
Ouais.
Dans un processus. Mm-hmm. Dans un processus, parfois, je vais vous poser des choix et ils font sens. Vous posez des gestes et ils font sens 2 mois, 3 mois plus tard.
Oui.
Donc moi, c'était simplement pour évacuer la souffrance et retrouver, oui, des souvenirs de l'enfance. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans ma petite enfance pour que ce soit enfoui à ce point-là. En moi, cette hypersensibilité. Donc, je vais chez l'hypnothérapeute, je prends le train et je me déplace, je me transporte en petit vélo. J'arrive là-bas, il était très froid, très distant. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucun souvenir qui me revenait lors de la séance. Mais à un moment donné, il m'a fait basculer dans des émotions extrêmes. Et il y avait aussi une émotion, parce que la veille au soir, il y a un garçon qui est venu me sauver. En me serrant très fort dans les bras. Et dans ce balancier d'émotions que l'hypnothérapeute essayait de faire, j'ai pensé à lui. Et je me suis mis à pleurer. C'était comme s'il y avait une branche qui cassait à l'intérieur de moi. Mais néanmoins, il n'y avait aucun souvenir qui revenait. Aucun. Durant cette séance, il n'y avait rien. Absolument rien. C'est ce qu'on appelle un déni traumatique. C'est quand l'enfant a reçu un traumatisme, il oublie tout. Mais moi, je savais pas ça. Donc moi, je pensais simplement dire oui, ok, j'ai pleuré un petit peu et puis basta. Donc je paye 60 euros, ce qui n'est pas grand-chose. Et vous savez ce qui s'est passé le lendemain ?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ?
J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où j'étais sur l'eau, sur une rivière, il faisait noir. C'était la tempête, il y avait des rapides. J'étais sur un kayak. J'étais pas tout seul sur le kayak. Il y avait ma mère. Ma mère était derrière moi. Elle était, je sais pas, elle avait l'air complètement à l'ouest, avec ses pagaies levées vers le ciel. Mmh. Elle faisait pas attention et moi j'avais hyper peur. Et puis je me suis retourné à nouveau. Et je la voyais plus, elle était perdue dans un tourbillon. J'ai essayé de la chercher dans mon rêve. Il restait plus que des chiffons. Et puis je me suis réveillé dans mes draps de lit, qui étaient complètement mouillés. Voilà, c'est ce qui s'est passé le lendemain de mon hypnose.
Et ?
Mais ça m'a libéré d'elle, en fait. J'ai l'impression de l'avoir tuée à l'intérieur de moi. Je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est une thérapeute. Mais voilà.
Est-ce que vous êtes retourné ?
C'est comme si j'avais cassé le cordon.
Alors, justement.
Je m'ai rendu.
Est-ce que vous êtes retourné le voir ?
Pas encore.
Et c'était quand, ça ?
Oh, c'était au mois d'avril.
Ah ouais. Alors, Kevin, vous avez entamé quelque chose. Il est impératif de retourner le voir.
Oui, bien sûr.
Pour pouvoir comprendre et interpréter ce qui s'est passé.
Enfin, ceci étant, deux semaines plus tard, parce que ça, c'est un de mes projets, j'allais à Palerme. Et j'adore prendre des photos. Mmh. Il y a quelque chose qui était incroyable qui s'est passé après cette hypnose. C'est qu'avant, dans mes photos, sur mon compte Instagram, on ne voit pas la couleur. Mais ce voyage-là, qui a eu lieu deux semaines, trois semaines, je ne me souviens plus exactement, après l'hypnose, mais les couleurs sont partout dans mes photos, omniprésentes.
Ouais.
Comment vous expliquez ça ?
Vous nous disiez hier qu'il y a surtout les couleurs rouges, jaunes, des couleurs vives.
Le bleu.
Le bleu aussi.
Le vert, oui.
Oui.
Moi, je ne comprends pas ce phénomène. Et oui, ça se libère. Et ça, de toute façon, je l'ai dit lors du premier entretien, ça se libère encore plus quand je prends du cannabis.
Ah.
Et je prends des petites doses homéopathiques. Je prends 2-3 taf et ça se libère. Et je vois les choses avec une profondeur, tant au niveau du son, au niveau de l'écriture. Là, j'ai fumé avec vous. Enfin, pas avec vous, vous ne fumez pas, évidemment.
Ah non. Et puis
désolé, excusez-moi.
Non, mais c'est interdit. C'est pas légal.
C'est dingue parce que vous avez une espèce d'acuité visuelle qui se fond dans les détails et dans les nuances. J'ai été au musée des Beaux-Arts, j'avais fumé un gros chichon, mais je voyais presque les différentes couches de peinture.
Alors,
avec une sensibilité qui est exacerbée. Mais qu'est-ce que je peux faire de ça ?
Kevin,
et donc, oui. Oui.
Oui. Alors, je rappelle quand même que le cannabis est illégal. Moi, je le rappelle.
Voilà, excusez-moi.
Que c'est très dangereux pour la santé.
Bien sûr, bien sûr. Il ne s'agit pas d'en faire sa promotion, évidemment.
Que peut-être vous le prenez de façon thérapeutique, je ne sais pas. Mais toujours est-il, vous avez reçu un SMS de Philippe. Philippe vous dit « Débarrassez-vous de votre histoire, de toute votre histoire. » Une mise honnête salvatrice. Bon courage, Kevin. La page est blanche.
Oh, c'est magnifique, le message. Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire, même. je m'en débarrasse.
Alors, quels sont vos
et
projets,
le meilleur.
Justement, quels sont vos projets? Vous nous disiez que vous aviez des projets. Quels sont-ils, Kevin, ces projets?
Je n'ai même pas pu vous parler de ma troisième naissance.
C'est... Ce qui va être important quand même pour vous, c'est...
Oui, est-ce qu'on est limité au niveau du temps?
Oui, toujours. Toujours. Il y a de la place, il y a un peu de place, mais le plus important, c'est ce qu'on va se dire avant de penser au temps.
Okay.
Que pensez-vous de choisir une date qui est vraiment significative, qui marque pour vous le début de quelque chose, donc ce Kevin, cette naissance? Ça peut être intéressant pour vous.
Mais j'hésite entre deux dates. Et c'est là où je ne vous ai pas parlé de quelque chose. Il y a une dame qui est extraordinaire, qui est magnifique dans mon entourage. Mmh. Et depuis le décès de ma grand-mère, dont je vous ai parlé, elle est là, avec amour, elle me soutient. C'est une artiste, c'est un peintre. Elle est magnifique, elle est douée. Et... Mais forcément, dans l'état de souffrance que je suis ostracisé partout, elle ne s'en rend pas compte. Mais ça, ce sont les choses qui font mal, mais peu importe, ce n'est pas là le problème. Elle est magnifique. Et c'était son anniversaire il y a une semaine.
Oui.
Elle n'a pas du tout aimé mon cadeau. Et le contact, c'est un type... Et je la comprends maintenant. Et le contact s'est bloqué à ce moment-là. Et vous savez quoi? Le fait qu'elle rejette mon cadeau comme ça, ça correspond à la naissance de Kevin aussi. C'est comme si une maman qui m'a soutenu, qui m'a dit mon côté artistique, qui me l'a fait découvrir, m'expulsait de son ventre pour que je fasse le meilleur. Et c'est vrai que quand je regarde le cadeau que je lui avais donné, c'est le cadeau d'un gars qui manque de discipline, qui est complètement brouillé et qui doit apprendre.
Oui.
Voilà. Donc, des projets, j'avais un projet photographique qui s'appelle Love to Make People Smile, avec un logo qui a été fait par elle.
De l'amour pour... De l'amour pour rendre le sourire, de l'amour pour rendre le sourire ou de l'amour pour donner du bonheur.
Je n'ai même pas vu comme ça, moi. Merde, je suis nul en anglais.
Je n'ai vu que la traduction littéraire de ce que vous dites.
Ouais, alors je dois changer le logo alors. Non, c'est simplement, j'adore faire sourire les gens. C'est dans cette interprétation là.
Eh bien.
Ce qui
est important, encore une fois pour vous, c'est, comme je le disais à Nana, à qui je transmets mon bonjour et une pensée, c'est vraiment devenir l'homme de vos rêves. Voilà, Kevin, très important.
J'ai envie. Mais comment trouver des gens qui vous soutiennent lorsque vous êtes ostracisé à ce point
encore
et que
une
vous portez
fois,
un passé qui n'est pas le vôtre?
Vous avez entendu mon introduction. Oui. J'ai dit que quand on a de la chance... Finalement, est-ce qu'on est en capacité de susciter et surtout identifier le positif de la vie? Et ce que j'entends chez vous, Kevin, vous êtes en boucle sur votre ostracisme. Et j'ai envie de vous dire à quel moment ou où sont les personnes qui, au contraire, vous soutiennent et vous apportent leur amitié ou leur amour. Concentrez-vous plutôt sur ces personnes-là. C'est bien plus déjà bénéfique pour vous. Et puis surtout, par rapport à cette énergie que vous avez. Et
elle est folle.
Et ce côté éponge, c'est bien plus important. C'est une proposition qui est faite.
Ceci étant, moi, je suis dans mon projet, pour l'instant, à la fois d'écriture. Mmh. Mais j'aimerais bien refaire des photos. Parce que, effectivement, ce que j'irai avec l'œil. Au niveau des couleurs, c'est particulier. Et c'est quelque chose qui est vraiment exploité.
Ben voilà, vous parlez de talent.
Et j'aimerais bien aussi me battre. Me battre. Et ça, c'est le combat de Gérard. Et c'est devenu le mien. Gérard, c'était cet oncle qui s'est suicidé. C'était ce secret de famille que j'ai dû porter finalement dans l'ombre. qu'on m'a pris comme si j'étais lui. Et j'en ai terriblement souffert. Et c'est devenu mon combat. Je ne veux plus que ça se reproduise. Je ne veux plus que des autistes, qui sont parfois brillants, qui sont intelligents dans leurs différences, dans leurs richesses, je ne veux plus qu'on les martyrise. Je veux qu'on les respecte, qu'on les détecte dès le plus jeune âge. Quand il y a des parents qui voient dans la cour de récréation leur enfant qui est moqué, ou à qui on crache dessus, qui est isolé parce qu'il ne fonctionne pas comme les autres. Mais putain, merde, ne le forcez pas à devenir comme les autres. Il est différent. Et respectez sa différence.
Kevin, je vais donner le mot de la fin à Denis, qui vient de vous envoyer un SMS. Et alors vraiment, le SMS est super, bravo Denis, et je me joins complètement à ce SMS et ce sera le mot de la fin. Kevin, à vous entendre parler, j'ai très envie de découvrir vos talents photographiques. Il serait judicieux de partager vos créations et alors le monde s'ouvrira à vous. Bon courage.
Merci, merci infiniment.
Fantastique ce SMS.
Ah oui, non, il est très beau.
Et ben
il est
voilà.
Très beau et j'ai envie de partager.
Et ben parfait. Et moi, je me joins complètement à ce SMS de Denis. Je vous souhaite vraiment bon courage. Je vous souhaite plein de belles choses, Kevin. Et puis surtout, bien évidemment, maintenant que vous connaissez le numéro, le 3921, rappelez-nous pour nous communiquer vos dates lorsque vous pourrez exposer vos photos. On sera ravis de pouvoir vous soutenir et vous donner un petit coup de pouce.
Vous êtes magnifique et vous êtes extraordinaire de donner accès à des voix comme la mienne. C'est magnifique. Merci. Merci infiniment.
C'est normal.
Et merci à Europe 1. Merci.
Au revoir, Kevin.
Au revoir.
Et nous accueillons tout de suite Marie. Bonsoir, Marie.
Anna, non ?
Oui.
Comme ça ?
Oui, c'est Sana.
Je prononce parfois les mots difficiles.
Bienvenue à la libre antenne, Marie.
Merci. Je voudrais commencer par mon enfance.
Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'ai un frère qui est né en 48 et j'en ai un qui est né en 1er janvier 50. Et ma mère est tombée enceinte de moi tout de suite de mon frère. Alors, je suis née le 19 février 51. Mmh. Et puis, vers 4-5 ans, je me rappelle, je faisais pipi au lit. Et ma mère ne pouvait pas me sentir. J'étais martyrisée. Alors, elle me tapait. J'ai couché dans une remise où il y avait du bois.
Ah oui.
Sur une paillasse de blé. Et quand elle voyait que j'avais fait pipi au lit, je recevais des coups de tisonnier, des coups de balai. Je ne vous mens pas. Hein. Vous avez ma parole. Et puis, un jour, j'ai reçu un coup de couteau sur la main. Et un jour, on a déménagé. On a
Marie, pardonnez-moi, vous avez reçu un coup de couteau sur la main de votre mère ?
Oui, en prenant un bout de pain.
Et personne ne...
Non. L'assistance sociale passait et je n'avais pas un mot à dire. Je faisais comme s'il n'y avait rien. Alors, je continue d'abord mon enfance.
Oui.
Alors, j'habitais au-dessus de mes grands-parents. J'étais belge.
Oui.
Et ma mère, je faisais toujours pipi au lit, elle me tirait les cheveux dans l'escalier et abattait sa belle-mère aussi. Et mon papa me protégeait, mais elle le tapait à coups de tisonnier aussi, à coups de balai. Et quand il rentrait de la maison ou du travail, elle le fichait dehors sans salir sa maison. Voilà. Mon papa, il allait voir les copains. Donc, quand il me protégeait, il dit, fais attention, tu vas la tuer, celle-là. Elle a dit, elle peut crever, celle-là. Vous savez, c'est dur, ça remonte. Hein.
Ah oui, c'est...
11 ans, ça fait, ça
c'est
remonte.
Très, très lourd.
Alors,
Marie, je voudrais savoir, cette enfance que vous avez vécue, hein, clairement, c'était... Je comprends le terme martyrisé. Comment est-ce que vous arriviez, ou avec quoi est-ce que vous arriviez à vous échapper, ne serait-ce que, pas forcément physiquement, mais comment faisiez-vous pour trouver des petits sas de décompression, des petits moments de bonheur? C'était quoi?
C'était l'école, ma maîtresse qui me soutenait.
Elle était au courant? Elle le savait?
petit, ma mère me trempait le nez dans mon pipi et j'allais à l'école comme ça. Ça m'étouffait. Et j'étais asthmatique, elle ne m'a pas soignée. Et puis ma grand-mère me prenait en vacances. J'étais très heureuse et je ne faisais pas pipi au lit chez les grand-mères.
Paternelle.
Les deux.
Ouais.
Oui, maternelle et paternelle, les deux. Et puis, elle me disait, de toute façon, j'ai eu une typhoïde à 4 ans, sur les 6 enfants, j'étais la seule qui a eu une typhoïde. C'est pas normal.
Ah ouais,
je
oui.
posais des questions. Avec ma grand-mère qui avait le droit de me voir, son nevers, mais elle n'avait pas le droit de rentrer dans la chambre parce que j'étais contagieuse. Mes frères se sont déplacés, tout ça, mais je suis rentrée, bon, c'était encore vers 7-8 ans. Et arrivée à 16 ans, c'était encore des coups. Et puis quand j'ai connu mon mari, des coups jusqu'au mariage, pas un cadeau, rien du tout. Et elle m'a dit, tu te marieras civilement. Mon mari, mon futur mari, me fait, c'est pas grave, ce qui compte, c'est toi.
Marie, voilà. Est-ce que vos frères subissaient le même traitement?
Non. L'avant-dernier. Il l'a trempé dans l'eau froide, il a fait des convulsions.
Ah ouais. D'accord.
Il est marié, mais enfin, il n'a pas su vraiment lire, écrire. Il est un petit peu perdu.
Et vous avez rencontré votre mari, enfin la personne qui va devenir votre mari, à quel âge?
Oui. 16 ans et demi.
À 16 ans et demi? D'accord.
Oui. Alors, j'ai reçu des coups à cause de ça. Alors, je lui disais tout ça. C'est pas possible. Il l'a su par les voisins, tout ça. Et il était obligé de l'acheter, la gâter. Elle lui demandait de l'argent. Elle est partie. Elle doit toujours de l'argent, mais enfin, malheureusement, elle est partie. Bon, elle est pardonnée, hein, parce que je suis croyante. La mort pardonne les péchés, comme on dit, chez moi. Alors, mon père, il est en maison de retraite. Et la dernière fois que j'ai été le voir avec mon époux, il y a 2 ans, il a serré les mains à mon époux. Il a dit, je suis contente, t'as rendu ma fille heureuse. Parce que tu sais, on en a vu. Mon mari a répondu. Mais oui, j'ai tout su. Hein, parce que mon mari, il venait de Paris. Et puis, on s'est installé à la campagne.
Oui.
À la campagne, les voisins, ils me connaissaient bien. Moi, ils m'ont vu toute petite, tout ça.
Mmh.
Ça se répétait, vous savez, l'oreille en oreille. Il l'a su comme ça, mon mari. Puis, à son travail. Alors, mon mari, il est de mère juif.
Mmh.
Et elle est morte en couche du cœur. Alors, comment ma mère a su qu'il était mère de juif, papa français, Bernard, et elle le traitait de bougnoule. Il a tout accepté pour moi, mon mari. C'est le seul, et puis il n'y aura pas d'autre. Alors, quand j'ai attendu mon premier enfant, elle m'en voulait, jalouse. Elle me disait toujours, une fois, dit à mon mari, vous la gâtez trop.
Marie, je voulais savoir, cette mère, qui est, bon, on va dire votre mère, hein, parce que ça reste votre maman. Malgré
le... Je ne peux pas dire maman.
Pardon?
Je ne peux pas dire maman.
Vous n'arrivez pas à dire maman, hein? Bah oui. Je peux comprendre. Je pense que tout le monde peut comprendre que ce soit
la marinée.
Ouais, ce soit très compliqué de créer du lien comme ça. Moi, ce que je voulais savoir, c'est vous vous mariez, vous avez quand même continué à garder contact, à voir votre mère malgré tout.
L'aider. L'aider financièrement, puis qu'elle avait un bon salaire, des allocations. On a tous travaillé. Et quand je me suis mariée, pas un cadeau, rien du tout. Même pas un bisou, pas pris en photo avec elle. Je n'avais pas le droit d'avoir une longue robe, une petite robe. Les chaussures, c'est Mamie qui me les a offertes,
oui.
L'occasion. Avec ma tante qui m'a payé, elle me soutenait beaucoup. Elle dit, j'aime bien ta sœur, mais j'aime toi. Ils n'ont pas eu d'enfant, mon oncle, le frère de mon papa. Ça a toujours été, toujours été. Et puis, quand j'ai entendu le deuxième, parce que je voulais tellement
Marie,
une fille.
Marie, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone? Parce que on vous entend de moins en moins bien, en fait. Et pour moi, c'est très compliqué de...
Là,
c'est parfait. C'est parfait.
D'accord. Oui, tout le monde me le dit parce que c'est un petit smartphone. Alors, quand j'entendais mon deuxième enfant, parce que je voulais tellement une fille, bon, j'ai eu un autre garçon.
Oui.
Après 2 ans, j'ai revu un enfant pour avoir une fille, un troisième garçon.
Trois et garçons, puis, vous avez eu. Est-ce qu'elle gardait, ses petits-enfants?
Non,
non,
jamais.
Est-ce qu'il y avait
non,
un contact
jamais.
Également avec les petits-enfants?
Non.
Non.
Non. Ils n'aimaient pas leur grand-mère et puis il n'y a jamais eu de contact. Ils ont su. Même mon fils, en grandissant, il m'a dit « Maman, tu n'avais qu'à te sauver ?» Je dis « Mon fils, à 11 ans, tu ne peux pas te sauver ou aller à la campagne ?» J'ai fait une tentative de suicide à 11 ans.
Mmh.
Avec de l'aspirine. Voilà. Et ça n'a pas marché, bien sûr.
Marie, Marie, on va vous retrouver juste après les informations, le journal d'Alexandre okay. Lemaire. Il est 23h sur Europe 1, tout de suite, le point J'ai du mal à le dire.
Tout va bien.
Un point sur les informations avec Alexandre Lemaire.
Elisabeth Borne propose de doubler la prime transport à 400 euros dans une interview à la presse régionale. La Première ministre ouvre la porte donc à un doublement du plafond de cette aide défiscalisée que peuvent verser les entreprises aux salariés pour couvrir leurs frais de carburant. L'horizon économique s'assombrit dans la zone euro, estime Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, en raison de la guerre en Ukraine. En France, Bercy prévoit un ralentissement de l'activité l'année prochaine avec une prévision de croissance ramenée à 1,4%. Le gouvernement veut tenir son engagement de sérieux budgétaire. Il prévoit de réduire fortement les dépenses de l'État et des collectivités durant le quinquennat, autrement dit jusqu'en 2027. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, présente cet effort sur la finance publique comme le plus important depuis les 20 dernières années. Les incendies en Gironde, une partie des personnes évacuées sont autorisées à regagner leur domicile. Ainsi, 3000 habitants au Pilat-sur-Mer et 2400 habitants des villages de Saint-Magne et Cabanac dans le secteur de Landiras. Les incendies en Gironde, toujours pas fixés, mais il ne progresse plus désormais. 20 800 hectares de forêt girondine ont brûlé en tout, tandis qu'au sud d'Avignon, cette fois, l'incendie est bien dû à un train de marchandises. Un système de freinage défaillant a mis le feu au massif de la Montagnette, confirme le parquet de Tarascon. Plus de 1 600 hectares ont brûlé, le feu est fixé, mais pas encore éteint. La Russie et l'Ukraine vont signer un accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Rencontre organisée demain après-midi à Istanbul avec le président turc et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'accord devrait permettre une sortie des céréales bloquées par la guerre en mer Noire et diminuer les risques d'une crise alimentaire mondiale. Le président italien dissout le Parlement après la démission de son Premier ministre Mario Draghi qui a vu son gouvernement d'union nationale imploser. Cette dissolution du Parlement mène à des législatives anticipées qui seront organisées en septembre. Joe Biden a donné de ses nouvelles sur Twitter cet après-midi après avoir été testé positif au Covid. « Je vais très bien », rassure le président des États-Unis qui aura bientôt 80 ans. Il ne présente que des symptômes très léger, selon la Maison-Blanche. Caris riposte à la plainte de son ex-compagne pour violence. Le rappeur porte plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. À l'évocation de coups de pied et de coups de poing, il dénonce un mensonge. Il évoque une forme de pression médiatique et financière. Et puis Vingegaard remporte la 18e étape du Tour de France. Dernière étape de montagne entre Lourdes et Hautacam. Le Danois creuse l'écart en tête du classement général. Emmanuel Macron a suivi de près cette étape pyrénéenne. Le président était dans la voiture de Christian Prudhomme, le directeur de la course. 23h03 sur Europe 1. Vous retrouvez la Libre Antenne avec Sana Blanger.
Europe 1. La Libre Antenne. Sana Blanger.
Votre fidélité, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour une petite heure sur Europe 1 dans la Libre Antenne. Nous retrouvons tout de suite Marie, Marie qui clairement a une enfance martyrisée. Marie, vous êtes avec nous?
Oui.
J'ai oublié de vous dire, à 14 ans, elle m'a fait quitter l'école pour aller travailler à 10 km sur un vélo, dans la neige, et puis dans une usine de bois. J'ai peiné, c'était moi la plus jeune. Bon, après 15 ans, j'ai voulu aller dans une maison de couture. Je faisais des landaus pour les bébés. J'ai pris le car, mais elle ne me donnait pas un centime. J'avais une gamelle à faire réchauffer dans un café avec un morceau de lard. Et puis, pas un centime, rien du tout. Mmh. Ma chef, elle me donnait ce qu'il faut, un petit café le matin, après-midi, un petit déjeuner. Et puis, j'avais mal à une dent.
Ouais.
Et ma mère n'avait jamais voulu me soigner ma dent. Et c'est ma chef de couture qui m'a envoyé un dentiste pour arracher la dent.
Mmh.
Et ma mère l'a pas remercié, la chef, lui demandant si elle devait quelque chose. Surtout qu'elle avait la mutuelle de mon papa qui travaillait, notre mutuelle, toutes les mutuelles, elle avait l'argent, elle avait ce qu'il faut.
Oui.
Voilà.
Vous savez que votre histoire est bouleversante, hein, Marie. J'ai même eu du mal à retrouver mes esprits, surtout mes émotions, parce que, en fait, ce que vous nous racontez, on se dit, mais c'est quand même incroyable. Mais c'est incroyable. Alors, je vous rassure, je vous crois. Hein. Je ne remets absolument pas... rassurez-vous. Mais c'est tellement dur. Et on se dit, mais je comprends la phrase de votre fils qui se dit, mais maman, mais pourquoi tu t'es pas enfui? Et puis ensuite, j'entends toutes ces personnes qui étaient au courant de ce que vous subissiez. Oui, et voilà. Personne n'a bougé. Personne ne s'est dit, mais il faut la sortir de cette situation. Vraiment, c'est... C'est rageant.
Mon oncle était en Amérique, il ne voyait pas tout. Alors, c'est l'autre oncle, la soeur de ma mère, qui est très gentille, il téléphone toujours. Puis mon oncle, avant de décéder, dit, on aurait dû faire quelque chose pour toi. Il est trop tard, il voyait tout. Il n'osait pas. Puis moi, quand un coup, marié, j'ai fait bâtir ma maison, je téléphonais à l'assistance sociale. Bien sûr, elle était âgée. Je dis, Madame Nolo, pourquoi vous n'avez rien fait?
Oui.
Là, du mari, j'avais peur. Quand j'arrivais, il y avait tout qui était calme. Vous savez, parce que ma mère m'avertissait de rien dire. Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui s'est passées plus terribles. Vous savez, les prisonniers, ça marque. Mon père, il a toujours les traces. Il a 97 ans, il se rappelle encore.
Ah oui, mais... Alors, tout le monde a subi, tout le monde a supporté, c'est incroyable. Et qu'est-ce que vous ressentiez, vous, pendant toute cette période où vous vous rendiez compte au fur et à mesure que vous avez grandi, au fur et à mesure que vous avez côtoyé d'autres personnes, qu'est-ce que vous ressentiez vis-à-vis de votre mère ?
L'indésirable, rejeté. Elle me disait, de toute façon, tu ne feras pas des vieux os. Parce que comme tu as eu la typhoïde, ça touche le cœur ou le cerveau. Mais j'ai un bon cerveau. À part que je suis handicapée maintenant. Et quand j'ai reçu, mon mari m'a connue malade. Parce qu'il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que ça me grattait tout le temps dans la gorge, ça me grattait tout le temps. Et ma mère, elle me donnait du vinaigre pour rincer la gorge. Alors je faisais ça, quand mon mari m'a vue. Pourquoi tu fais ça? Il y avait 3 mois qu'on était mariés. Il m'a trouvé un spécialiste, je ne sais plus comment on appelle ça.
Un ORL pour la gorge?
Pour les allergies.
Un allergologue?
Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, il m'a fait les tests. Allergique du chat, du bois, poil de chat, enfin de toutes sortes. Et ma mère, elle m'a jamais fait soigner. Elle m'a donné des coups dans la figure. Elle m'a coupé mes cheveux parce que j'avais les cheveux longs. Voilà. Et quand je me suis mariée, j'avais les cheveux sur les épaules, mais normalement, je les avais jusqu'aux fesses. Alors, elle m'a donné un coup de dos.
Est-ce que vous avez vécu des moments quand même de grâce, de pause avec votre mère? Ou est-ce que c'était constant? Donc vous avez grandi avec la peur?
Oui. mon mari là-dessus. C'est mon mari qui m'a vraiment sauvé la vie.
Marie, encore une fois, moi, je voudrais comprendre pour quelles raisons est-ce que vous avez continué à côtoyer votre mère, à faire subir à vous-même et à votre époux, lui-même d'ailleurs, quelque part, il a accepté que votre mère soit toujours là.
Oui, parce qu'il était bien avec mon papa. Et elle ne donnait pas un sou à mon papa.
Ah,
c'est
oui.
Marie qui donnait des sous à mon papa pour lui payer son petit café.
Oui.
Et mon papa, jusqu'à 75 ans, il allait faire des jardins pour avoir de l'argent. Et pourtant, elle avait une bonne retraite.
Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà abordé avec votre père, à lui demander, mais comment est-ce qu'il avait fait? Pour quelle raison est-ce qu'il a accepté, lui aussi? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé avec lui?
Oui, bien sûr, avec mon mari, à l'hôpital, tout ça. Moi, je fais beaucoup les hôpitaux.
Qu'est-ce qu'il vous répondait à chaque fois?
Ouais. Il pleure comme un gamin. Il a toujours pleuré comme un gamin à table. Il le tapait. Et puis, on m'a reproché que, par exemple, quand on mangeait la soupe, j'essuyais avec un morceau de pain. Elle m'a reproché que j'essuyais bien l'assiette. Elle me dit, plus tard, tu seras une grosse. J'emploie pas le mot parce que je suis polie. J'ai compris. Parce que sa mère, elle était très forte. Bon, là, je fais 1m63 pour 70 kilos. Mais elle me verrait, elle serait méchante. Alors, j'ai fait de l'anorexie pendant des années et des années. Je suis tombée à 32 kilos. Mmh. Quand j'ai marié mon fils il y a 16 ans, à cause d'elle.
Oui.
Mon mari s'est rendu compte après. Mais dès qu'elle est décédée, ma mère, je me suis remis à manger.
Elle est décédée quand, votre mère?
À peu près une dizaine d'années, parce que j'ai hérité de sa maladie, moi. Je suis handicapée. Les os.
Alors, c'est très intéressant, parce que vous avez été extrêmement précis sur les dates pour le moment. Et quand je vous ai demandé quand était morte votre mère, vous m'avez juste dit, il y a 10 ans.
À peu près. Je m'en rappelle plus. Je suis au cortisone, j'ai de la morphine, j'ai de la corticoïde.
D'accord.
Je souffre énormément, je suis sous machine.
Marie, forcément, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous avez appris le décès de votre mère?
J'ai pas eu de larmes. Il y a quand, dans la nuit, quand mon frère m'a averti, parce que j'ai un petit frère, c'est moi qui l'ai élevé, elle l'a eu à 40 ans, c'est moi qui l'ai élevé.
Ouais.
Et puis, ben, mon mari, ça l'a un petit peu travaillé, puis moi aussi. Mais au cimetière, je n'ai pas versé une larme. Mais j'ai quand même mis une plaque de moi-même. Personne n'a su. Parce que j'ai pardonné.
Vous avez réussi à lui pardonner.
Oui, elle me disait parfois, « Oh, il me faudrait si tu sens bon ou tu as pris ton parfum ?» J'ai dit, j'ai broché. Ah, il me faudrait ça. Alors moi, je courais, j'en achetais un. Des commissions. Ma belle-sœur me disait, attention Marie, elle profite de toi. Et mon mari, j'ai dit, j'ai plus beaucoup d'argent. Il dit, on va aller à la banque. Et j'ai dit, ben, c'est ma mère. Elle me suffirait de l'argent. Beaucoup comme ça.
Vous portez bien votre prénom, Marie, hein?
Oui.
Ouais, vous le portez bien, vraiment. C'est cette mansuétude, cette capacité à avoir pardonné, cette résilience, à avoir supporté tout cela. C'est, je personnellement, vraiment, je reste sans voix presque. C'est incroyable.
C'est ma cicatrice sur la main,
ouais.
Venir. Moi, Marie, sa maman, elle est morte en couche du cœur. Mon papa, il est abandonné. Et j'ai perdu mon mari le 5 décembre 22. Et je l'ai encore sur le cœur. C'est le seul. Et j'ai promis, il n'y aura pas d'autre.
Ouais, je suis désolée.
Il m'a rendu heureuse. Les bijoux, tout ce que je voulais, il l'avait. Il m'a dit, je ferai un centenaire, ne t'inquiète pas.
Oui.
Faire, il faisait pas voir parce qu'il voyait que je souffrais. Il me disait si on pouvait partir ensemble tous les deux, au lit, dans la main. Et quand on m'a appelé le dimanche soir, il m'a appelé le dimanche matin, mon mari, à l'hôpital.
Oui.
Il dit, tu t'inquiètes pas, je suis aux urgences, mais lundi, je remonte dans ma chambre. Il a pas osé me le dire. Et mes amis, j'ai des amis docteurs, ils ont fait appeler mes amis dans ma ville, là, Cône. Ils m'ont dit, Marie, prépare-toi, il est 9h, puis je suis couchée, pourquoi ? On t'emmène voir ton mari. C'était plusieurs, mes amis. Marie, écoute-nous, tu te prépares, on te prend en passant.
Mmh.
Il le savait. Parce que mon mari, il m'a fait demander, mais je ne le savais pas, moi. Quand il était sur la machine artificielle, l'infirmière m'a accompagnée, elle le voit, elle m'a demandé, il pouvait à peine parler. J'ai dit, t'as prié, il m'a dit oui.
Marie, vous pouvez vous rapprocher du téléphone, s'il vous plaît ?
Ah, pardon.
Je vous prie. Oui.
Alors, j'ai dit, t'as prié, il m'a dit oui. J'ai promis d'être seule, il n'y aura pas d'autre. Il m'a causé pendant trois quarts d'heure. Je ne comprenais pas tellement bien. L'infirmière me dit, Madame Bernard, il souffre qu'on le débranche. Il a secoué la tête. J'ai dit, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, c'est pas possible. C'est normal. Mes amis m'ont ramené. Il était 5h, 8h du matin, je ne sais plus très bien. Ils ont couché un petit peu à la maison parce qu'ils allaient faire chasser une bêtise. Parce que je me jetais partout. Hein. Mon fils et mes petites filles m'ont tenu, m'ont bien serré. Parce que comme il s'est fait incinérer, c'était notre désir, à nous tous les deux.
Mm.
Très, très, très dur parce que j'ai perdu gros, gros, gros. Et maintenant, en sachant, j'ai vendu ma maison, bien sûr, et avant. Mon mari est malade parce que je le savais qu'il était malade du cœur. On est revenu en ville là.
Mm-hmm.
Et depuis que je suis veuve, maintenant on profite de moi. Ça, une petite dame qui profite de moi.
Oui.
Quand il y avait mon mari, elle ne me causait pas. Moi, je lui donnais des bijoux, j'ai donné beaucoup de choses et j'ai été volée. Mm. Alors, mes amis m'ont dit, Marie, tu ne fais pas rentrer. Ferme ta porte, fais attention. On est là pour t'aider, nous. Hein? Hein, cette dame-là, elle me dit qu'elle gagne 800 euros par mois. Moi, je ne la connaissais pas. Elle a 62 ans. Et elle me dit qu'elle paye 600 euros de loyer. Et j'ai le même logement que moi. Elle me dit qu'elle n'a pas la paix. Et puis, elle a une voiture. Elle part tous les jours. Et c'est pas possible que vous gagnez 800 euros par mois si vous n'avez pas la paix. Alors moi, comme j'ai travaillé avec les services sociaux, je connais bien les lois.
Oui.
Mes amis m'ont dit, Marie, elle va être épuisée. J'ai prévenu mon fils. Mon fils dit, maman, fais attention. Tu as trop donné. Tu as fait ci, tu as fait ça, moi. Tu as toujours été bonne. Hein. Je suis là. Et papa m'emmène avec lui en vacances à cause de ma maladie, parce que je fais des embolies pulmonaires avec coma.
Ouais, oui.
Mon mari m'a sauvé trois fois la vie. Quand il a vu les volets pas fermés, il a couru plusieurs fois, deux fois, arrivé, mais je ne me rendais pas compte. Et après, dans la voiture, avec des amis à Orléans, j'ai fait une embolie pulmonaire sans me rendre compte. Et mon mari dit non, elle ne dort pas. Pour foncer sur l'hôpital d'Orléans. Je suis restée à Orléans. Et depuis ce temps-là, je suis tout le temps malade. Les os, les coups que j'ai reçus, je ressens tout ça. Ça remonte dans la tête par moment. L'ami me dit ce que tu penses, les bons moments que tu as passé avec ton mari.
Ok, oui.
On le regrette, c'était un bon mari.
Oui.
Tout le monde l'aimait.
Oui.
Ma mère, elle aurait voulu que je me marie avec un gros riche. Mon mari, il n'était pas tellement riche, mais enfin, il avait ce qu'il faut. Hein.
Mais vous étiez bien au moins avec lui, c'est ça le plus important.
Voilà, l'argent. Absolument. N'a pas de valeur.
Ah ouais. Non, non, c'est sûr, je comprends parfaitement. Comment est-ce que maintenant vous occupez vos journées, Marie? Qu'est-ce que vous faites?
Je suis souvent allongée, je lis beaucoup.
Oui.
Et je suis sur la tablette avec mes amis.
D'accord.
Parce que comme je suis fragile,
oui,
quand ils viennent mettre un masque, ils m'appellent tous les jours.
C'est bien, vous avez su en plus créer un noyau sympathique avec vos amis, c'est super.
Oui, j'ai des amis partout.
Ah, très bien.
Même en Angleterre, on m'a appelée.
Ah, très bien.
Oui.
Est-ce que l'idée d'y aller vous séduirait?
Non, je peux pas, c'est impossible.
Impossible avec eux? Non.
Ma maladie, je peux pas me déplacer.
Ah.
Il y a un kiné qui vient tous les deux jours pour essayer des essais. Ça fait depuis 2008. Parce qu'ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas vu que j'avais la sclérose en plaques et l'ostéoporose. Parce qu'à 25 ans, j'ai été opérée une fois, côté gauche. Bon, j'ai eu ma fille, mais elle était prématurée. Mais ça m'est sorti. Elle était opérée d'un rein. Et j'ai un fils qui a été opéré d'une tumeur à l'intestin deux fois. Et puis là, il est hérité de mon mari, il est opéré du cœur. Et son fils de 27 ans, qui est boulanger, il va avoir une pile. C'est héréditaire du côté de mon mari.
Très bien.
Et moi, les os, c'est héréditaire du côté de ma grand-mère.
Ah oui.
Mais ma mère l'avait opéré du genou. Et moi, on ne peut pas me mettre de prothèse, rien du tout. Parce que je suis sous coagulant et j'ai un IRR qui reste entre 1,5. Au bas pour être opérée. Alors, j'ai été il n'y a pas longtemps à Paris, à Dijon, à Dracy-le-Fort, Orléans. Personne ne peut me toucher. Soit la mort ou la paralysie. Alors, j'endure mes douleurs.
Oui. Marie, à travers votre appel et votre témoignage, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous avez un message à transmettre? Est-ce que vous avez besoin de nous dire encore une dernière chose?
Je fais un gros bisou à mon amie Nicole qui écoute votre émission tous les jours.
Ah ben, bisou à Nicole alors.
Oui, très gentille. C'est une copine de l'âge de 16 ans.
D'accord. Moi, je voulais vous dire, Marie, vraiment que voilà, cette résilience, cette vie que vous avez traversée, que vraiment vous êtes incroyable. Et j'espère vraiment que vous allez retrouver de la forme de sérénité, que la douleur va vous abandonner, qu'elle va vous oublier et que vous pourrez donc profiter des années encore devant vous avec les gens que vous aimez et surtout de vos enfants.
Oui, mais c'est une maladie qui soigne pas.
Bah, en tout cas, on garde l'espoir. On garde l'espoir, Marie. Oui. Je vous embrasse. Vous avez tout notre soutien et vraiment bon courage.
Merci à vous.
Merci, Marie.
Merci. Écoute, Olivier aussi. Les jours.
Eh ben, merci de votre fidélité.
Jeune homme qui a passé avant moi, il m'a fait de la peine parce que moi,
Kevin,
j'ai travaillé sous. Voilà, j'ai sauvé des enfants. J'avais des petits noirs, des petits arabes, des petits portugais. J'ai fait du bénévole aussi. J'ai aimé ces enfants. Je les habillais comme mes enfants, comme des jumeaux.
Je suis persuadée qu'ils vous ont aimé aussi. Au revoir, Marie. Et nous accueillons tout de suite Constance. Bonsoir, Constance.
Bonsoir, madame.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Et merci de m'accueillir.
Merci à vous de nous contacter. Qu'est-ce qui vous arrive, Constance?
Eh bien, je venais témoigner sur une histoire d'amour secrète. On va commencer comme ça.
Oui.
Donc voilà, en fait, on est un groupe d'amis, fans de musique, fans de concerts. Et on se rencontre sur plein de concerts différents, sur ou des, voilà, des sorties XY. Et il y a maintenant, vers 2013, je crois, à peu près, au milieu d'amis, qui, au moins, on se présente d'autres amis, donc bon, un garçon parmi tant d'autres, bon, voilà, déconneur, tout ça. Bon, je rentre dans le cercle d'amis, me demande assez rapidement sur les réseaux pour qu'on reste en contact. Ok, très bien. Mmh. Et comment dire, on devient bon, plus que des potes de concert, quoi. On, voilà, petit à petit, on se confie sur nos vies, puisque lui n'a pas eu une vie très facile de base, durant son enfance. Après, il a été marié, il a eu des jumelles, dont une qui est décédée à la maternité, l'autre, sa fille est restée handicapée, lourdement handicapée. Oui. Donc, bien qu'ils se soient séparés de la mère de ses filles, ils sont restés en contact et tout ça. Mais, donc voilà, lui, ça lui a toujours énormément pesé. Enfin voilà. Et comme n'ayant pas eu une vie très facile non plus, on se retrouvait sur plein de nos malheurs. Et le jeudi soir, puisque sa fille était donc décédée le jeudi, donc ça restait le jeudi, c'était son soir de on va dire, de bêtises, hein, pour parler comme il faut. Donc le jeudi, c'était sur Facebook, il commençait l'apéro tout seul, et voilà, c'était son soir, en fait. Et alors, il commençait à mettre des bêtises, de la musique... Des choses plus ou moins intelligentes, l'alcool aidant ou n'aidant pas d'ailleurs. Et ça, à 2h du matin, c'était bon, alors il n'y a plus personne pour répondre. Voilà. Et comme moi je suis insomniaque, je suis là. Il m'insistait pour répondre une bêtise au début. Voilà, j'ai répondu, je suis là. Il me dit, tiens, tu veux écouter, on écoute quoi comme musique? Bon, je sais pas, on écoute YouTube, on écoute machin, on écoute truc. Et puis, ça donnait un petit rituel le jeudi soir. Enfin, de toute façon, lui, c'était son rituel le jeudi soir. Après, il s'est mis en couple avec une amie qui faisait partie donc de notre groupe.
Oui.
On s'appelait de temps en temps. Enfin, comme des amis, quoi, tout simplement. Et puis, petit à petit, quand t'arrives le mercredi et qu'on se dit, ah, putain, chouette, demain. Parce que on s'appelait quand le jeudi à 3h du matin, quand il était au bout de tout ce qu'il avait pu mettre comme bêtise, pour évacuer tous ses malheurs sur Facebook, quoi, on va dire. S'il avait une oreille qui était là, c'était bien. Et quand petit à petit on s'aperçoit que dès le mercredi on se dit cool, demain. Je vais pouvoir lui parler, qu'on a le cœur, plus le jeudi avance, le cœur qui bat à 3000, les petits papillons dans le ventre, comme on dit. Petit à petit, on se dit, mais c'est plus de l'amitié que j'éprouve pour lui, quoi. C'est mon ami, mais je sentais bien que je ressentais autre chose, quoi.
C'est venu au bout de... Sur combien de temps, là, on est sur...
C'est pas... 2 ans et demi, 3 ans peut-être. Après, il n'y a pas une date précise, ça s'est fait petit à petit, donc je ne peux pas dire tel jour vraiment.
Oui, bien sûr.
Et puis après, il faut arriver à l'admettre, l'éprouver et puis le ressentir et dire, mettre des mots dessus et arriver à se l'affirmer, parce que moi j'étais célibataire. Et après, moi, quand je tombe amoureuse, je tombe amoureuse en 2 secondes. Et on va dire, j'ai une grande amoureuse dans l'âme. Au bout de 2 secondes, je suis amoureuse. Mais si je suis amoureuse à fond, quoi. C'est pas pour faire semblant et avec tout ce qui va avec, on va dire. Mais bon, comme il était en couple, moi, je casse pas un couple. Donc, je me suis tue, on va dire. Voilà, en continuant d'avoir... sans jamais mettre un mot de travers, qui aurait pu prêter à confusion.
Donc vous faisiez très attention en fait. Donc vous étiez dans
très attention. Non, je restais naturelle quoi. Et puis comme des fois on parlait, moi je vais dire cul pour que tout le monde comprenne. Voilà dans ces trucs. Bon bah voilà, ça aurait pu passer à la limite comme une bêtise de plus dans toutes les bêtises qu'on se disait entre nous tous. Voilà, à la limite, même si j'avais dit quelque chose, je pense que ça aurait même pas. Je pense que personne n'aurait remarqué, quoi.
Et qu'est-ce que vous ressentiez par rapport à sa compagne, qui est aussi une copine ou une amie
Alors, rien, parce que, comme dans tout groupe, on s'entend plus ou moins bien avec les personnes. C'est pas parce qu'on est toujours. Enfin, parce qu'on va tous ensemble au même concert, qu'on s'entend ou qu'on se connaît. Voilà. À la base, je la connaissais pas, donc on n'a jamais eu. Quand on se voyait, c'est bonjour, au revoir, et voilà. À la limite, je parlais avec lui, avec d'autres, avec qui j'avais plus d'affinité, mais j'ai jamais eu d'affinité déjà avec cette personne, donc ça ne me faisait rien, on va dire, voilà.
Et elle était cool entre guillemets avec vous. C'est pour savoir si elle sentait quelque chose ou pas, parce que
je pense pas. Ouais. Non, parce que même mes amis proches, même nos amis proches, on va dire, du coup, ne l'ont jamais senti.
D'accord.
Ne l'ont jamais su, puisque je n'en ai jamais parlé à personne. Mmh. Et même à des amis complètement extérieurs, parce que on va dire j'ai ma vie de concert, de musique, avec tout ce genre d'amis. Et j'ai ma vie
vous cloisonnez,
de tous les jours avec des amis complètement différents, des gens qui ne se côtoient pas du tout. J'aurais très bien pu en parler à des amis très proches qui n'auraient jamais pu le contacter ou contacter aucun membre de ce groupe. J'en ai parlé à personne parce que c'était mon secret. Pour moi, il se passerait rien puisque il était avec elle et voilà. Mais c'était... Pour moi, j'étais avec dans ma tête et plus ça allait, plus ce sentiment était fort. Et pour moi, j'étais avec lui, quoi. De toute façon, je pense que même si le prince charmant était arrivé, je n'aurais même pas vu tellement j'étais obnubilée par ce garçon, quoi.
Je comprends.
Et après, en plus, il y avait une grande distance physique déjà entre nous, puisque moi, je suis sur le bassin d'Arcachon et lui était vers Lyon. Donc, on se voyait vraiment sur les concerts sur Paris ou des sorties sur Paris, parce qu'en général, c'était comme ça. Moi, étant grande fan de photos, et pouvant faire des très belles, n'est-ce pas, sur notre région, il me dit toujours, c'est super beau chez toi, il faut que je vienne. La porte est grande ouverte pour tous les amis, tu viens quand tu veux et tout. Et il y a 2 ans, il me dit, je vais, pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire est au mois d'août, il me dit, mais tu ne vas pas le passer toute seule, comme je ne le fête jamais. Je lui dis, je m'en fous, un anniversaire, c'est une date comme une autre, peu importe, quoi. Il dit, non, mais tu vas pas... Je sais pas pourquoi lui prend cette idée. Il me dit, non, mais je vais venir, parce que le mois de juillet, il était venu pas très loin dans la région, mais moi, j'étais pas du tout là à ce moment-là. Il me dit, c'est tellement beau, faut que je revienne, tu vas voir, on va fêter ton anniversaire ensemble. Tu veux, viens, quoi.
Il était seul,
il s'était séparé de sa compagne. Bon, alors, comme c'était la fin du Covid, j'avais pas trop cherché. J'ai dit, crise quand on est tous ensemble, enfin, quand on est en couple, là, à se côtoyer tous les jours pendant le Covid, on sait que ça a eu un grand impact, quoi, sur beaucoup de gens. Donc, je me dis, allez, séparation, de l'été, on va dire, je saute pas sur l'occasion, rien, quoi. Enfin, je lui dis, il y a pareil, aucun truc qui... Je lui dis, viens, on va fêter mon anniversaire, voilà. Enfin, un truc classique, hein, quand même. Et donc, le 7 février... Le 7 février, pardon. Le 7 août, j'étais au travail, donc hop, pendant un moment de pause, petit tour sur les réseaux sociaux, petit tour sur Facebook.
Oui.
Et là, je vois petit à petit de plus en plus d'amis avec le profil noir, Donc je me dis qu'est-ce qui se passe et donc bah que des amis de notre groupe en commun quoi donc
Je crains bon, la bon, suite.
Voilà et donc alors c'est très dur parce que comme la date anniversaire se rapproche ça devient compliqué et donc j'appelle une amie et bon je pense que j'avais compris intérieurement mais que je voulais pas l'admettre. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez tous... Puis je ne pouvais pas trop chercher, parce que bon, comme étant au travail. Elle m'a dit, mais t'as pas compris et tout. Elle m'a dit, Olivier s'est suicidé, il s'est pendu. Et donc là, je ne sais même pas si j'ai entendu la fin de la phrase. Je me suis littéralement écroulée par terre, en pleurs. J'ai mis... j'arrivais plus à respirer. Enfin bon, je pour le... Enfin voilà, pour, comme je vous dis, moi pour moi, il était, c'est comme si on était ensemble, même si bon bah voilà, il s'était jamais rien passé, mais dans mon cœur, on était ensemble et voilà, donc ça a été l'apocalypse qui m'est tombé dessus. Mmh. Je suis allée voir mon chef, j'ai dit je rentre chez moi, je prends une semaine plus peut-être, je ne sais pas. Donc comme il me connaît très bien, il a pas cherché à comprendre. Et donc je suis allée le voir, oui. Et donc j'ai passé effectivement mon anniversaire, on l'a passé ensemble. Alors déjà non, je pense que le jour même ou le soir même, je roulais en voiture s'il fallait que je savais même pas quoi faire. J'écoutais notre musique parce que c'était un grand fan de U2, donc j'écoutais du U2 dans la voiture, roulant au milieu de. Et là, j'ai fait une vidéo en direct sur Facebook pour dire à tout le monde tout ce que je ressentais, tout ce que j'éprouvais.
Ah oui.
Pour pas que ça reste caché, parce que de toute façon, ça n'aurait plus d'impact. Parce que tout était parti aussi d'une espèce d'embrouille qu'il y avait eu dans ce groupe. Enfin bon, toute une histoire à côté. Et... pour que tout le monde en prenne bien conscience, au vu d'aujourd'hui et vu de tout ce qui se passe encore, je pense que tout le monde n'a pas bien pris conscience de l'impact que les mots, les paroles que certaines peuvent avoir sur les gens, quoi, qui paraissent rigolos, parce que oui, effectivement, un grand gaillard, hein, évidemment, quand on est grand, quand on rigole tout le temps, on peut tout dire, qu'on peut tout faire avec la personne, mais souvent c'est des gens comme ça qui sont qui cachent leur fragilité, on va dire. Mmh. Donc
qu'est-ce que vous avez ressenti, Constance, de verbaliser et de libérer finalement vos sentiments?
À ce moment-là, je sais même pas ce que je ressentais. Je ressentais de la colère envers les dernières personnes qui l'avaient vu et qui avaient, entre parenthèses, qui lui avaient fait du mal, enfin, qui avaient fait... c'était la petite goutte de trop, certainement, parce que, de toute façon, il était très mal dans sa peau.
Vous le saviez?
Oui, tout le monde le savait. Puis il le verbalisait de toute façon sur Facebook. Combien de fois il a mis, il nous mettait adieu, c'est mon dernier soir.
Oui.
Dans ces jeudis soirs là, comme je disais. Voilà.
C'est jeudi bêtise.
Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça, le jeudi bêtise, exactement. Mmh. À force, c'est vrai que bon, comme on dit, à force d'appeler au loup, on fait plus attention. Malheureusement.
Oui.
Et moi la première, parce que encore aujourd'hui je me dis et si j'avais fait ça,
c'est exactement
même
ce
si
que
on
j'allais vous
que...
demander. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire?
Justement le mois de juillet quand il est venu à côté et qu'il m'a dit il était à 50 km de chez moi, il me dit je suis venu dans le coin. Tu viens boire l'apéro avec nous, donc avec d'autres amis. Mais moi, j'étais partie en Bretagne soutenir mon meilleur ami qui, à ce moment-là, souffrait d'un cancer. Mm. En temps normal, je suis assez folle pour refaire en sens inverse Et effectivement, juste pour une soirée, faire 700 km, j'ai déjà fait. Je suis un peu barré pour faire ce genre de choses. Mais là, à ce moment-là, ouais, je ne savais pas que mon meilleur ami, pour le coup, avait un cancer. Et quand je suis arrivée chez lui et que je l'ai vu malade et marqué, j'ai eu un tel choc que quand Olivier m'a appelé, j'ai dit non, mais là, je peux pas. Je pouvais pas. Hein. Et voilà, et je me dis, et si j'étais venue, voilà.
Vous pensez que ça aurait changé quelque chose?
Je sais pas.
Ouais, voilà.
On ose se dire que oui.
Oui, on a
ose
l'espoir.
Espérer que oui.
Ouais. Je comprends.
Je sais pas, peut-être en se voyant hors contexte fiesta, Peut-être, même si ça n'aurait été que certainement pour retarder, parce qu'on sait que les personnes comme ça...
malheureusement, ce mal-être.
Malheureusement, quelqu'un qui veut en arriver là finit toujours par y arriver. Voilà, si c'est pas en 2020, c'est en 2022. Mais bon, je me dis peut-être que j'aurais fait vivre 2 ans de bonheur, ou 3 ans, ou 4 ans, ou plus.
Ou plus, absolument. Donc il n'a jamais su ce que vous...
Non, il n'a jamais su. Je lui ai dit le 12 août, le jour de mon anniversaire. Pour le coup, on était ensemble, puisque j'étais le voir en chambre mortuaire. Et là, oui, je lui ai dit... mais bon, malheureusement, il ne pouvait pas l'entendre. Et en lui faisant les promesses, comme je lui avais déjà dit au téléphone, d'être toujours là pour sa fille. Et avec promesse de d'être là et de faire tout ce qui serait en mon pouvoir pour elle, ce que j'essaye de faire, puisque après j'ai rencontré la maman de ses filles, parce qu'on se connaissait pas du tout en fait, parce qu'elle fait pas partie du tout de ce cercle d'amis, et donc je l'ai rencontrée après. Et en fait, ça a matché de suite, quoi. On s'est de suite... on est pareil. On est pareil, quoi. On a la même façon de penser. On est... et sa fille est un modèle de courage. Mmh. Elle vient d'avoir 18 ans. Elle vient de passer le bac. Elle vient de... malgré tout ce qu'elle doit surmonter. En plus de son handicap, du décès de son père... des soins quotidiens,
donc
des
vous
opérations,
êtes là.
Enfin ouais. Voilà. Ouais. Et j'essaye. Voilà, j'y suis allée plusieurs fois et je suis là au téléphone autant que je peux. Et voilà.
Constance, vous avez démarré votre témoignage en nous disant que c'était un amour secret. Est-ce que c'était la première fois que vous ressentiez un sentiment aussi fort pour quelqu'un à qui vous n'avez pas oser dévoiler votre amour ou même une amitié, par exemple? Est-ce que vous êtes de nature pudique?
Alors, du tout. Alors, c'est bien la première fois que je ne dis pas quelque chose. De toute façon, en général, ça se voit très vite.
Mmh.
J'arrive justement pas à cacher mes sentiments. C'est parfois très compliqué d'ailleurs. Mmh. Voilà, si je suis en colère, on le sait. Si je suis heureuse, on le sait. Si je suis amoureuse, on le sait. Ah oui, tout à fait. Et tout le monde, enfin voilà. Puis à la limite, je me dis toujours, j'ai rien à cacher. Ma vie est un livre noir, en gros. Voilà, tous mes amis savent, plus ou moins, par où je suis passée. Parce que entre. En 3-4 épisodes, le décès de ma maman à 3 ans, mon papa pas très présent suite à ça, puisqu'il avec mon frère, il n'arrivait pas, parce qu'on lui rappelait trop
sa femme,
quoi, voilà. Donc il nous a confié à nos grands-parents, ensuite, maman, des demi-frères, moi je suis partie de la maison, j'avais 17 ans, mon fiancé, parce que c'était la seule personne à qui je me suis fiancée, il y a eu un accident de moto devant moi, une décision a été prise avec ses parents qui m'ont inclus dans la décision à ce moment-là, parce que pour eux, comme pour tout le monde, on allait finir notre vie ensemble, c'était, ça semblait une évidence. Et malheureusement, non. Et bon, c'était ça où rester branché, quoi. Donc, j'ai été. Ils m'ont demandé d'être avec eux pour prendre la décision. Et je ne sais même plus, à force, je dis c'est ça qui a brisé ma vie, mais bon, il y en a tellement. J'ai perdu mon papa aussi, j'ai perdu. Je pense que ma vie est constellée comme ça d'amis, de parents qui partent brutalement.
Oui.
J'ai des amis au Bataclan, j'ai un de mes grands amours ceux qui a réussi à me qui avait réussi à me redonner un peu confiance en la vie. On s'est séparés. Parce que là, c'était trop compliqué. Il était lui aussi tellement torturé par sa vie que c'était trop dur de vivre ensemble l'un et l'autre.
Et votre meilleur ami atteint d'un cancer, est-ce qu'il va mieux ?
Oui, très bien. très bien.
Bon.
Ouais.
Donc voilà. Il y a quand même des choses
positives. Il y a quand même des choses positives. Heureusement qu'il y en a quelques-unes qui nous permettent d'espérer et de voir différemment.
Qu'est-ce que vous avez appris ou retenu de ce qui s'est passé à ce jour dans votre vie ? Pas de façon générale, parce que c'est compliqué de répondre à une telle question, mais là, par rapport à Olivier, qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé ?
Pour l'instant, pas grand-chose. J'ai pas passé le cap encore.
C'était il y a combien de temps, rappelez-moi ?
C'était il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans,
le 7 août.
Le 7, oui.
Et votre anniversaire, c'est le 12 ?
Mon anniversaire, c'est le 12, ouais. Il a été enterré le 13, et donc le 12, c'était pour aller le voir avant son incinération.
Donc ça fait 2 ans.
Ça va faire 2 ans, là, ouais.
Oui.
Donc, en plus, il y a la date donc, en ce moment, je suis en pleine période de blues, de spleen. Je sens que la date se rapproche. Après, je fais un gros travail sur moi depuis 6-7 mois, justement, en me disant, voilà, à cette date, je ne dis pas que je vais l'oublier, loin de là. Mais je veux vivre différemment, on va dire ça comme ça. Je trouve pas le mot parce que je pense qu'il aurait pas aimé
qu'il veille certainement sur vous. Alors là, ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est un trouble dépressif récurrent. C'est-à-dire que voilà, il y a une date et puis la date qui approche et on se sent pas bien. Et voilà, donc il y a des symptômes de dépression claire. Et donc, on appelle ça également un trouble dysthymique également. C'est le terme un peu technique. C'est une période, quand elle arrive, il faut être un petit peu plus vigilant, plus à l'écoute de ses émotions et se faire plaisir, entre guillemets. Donc, prendre soin de soi et de se dire que ça va passer. Voilà. C'est complètement légitime ce que vous ressentez aujourd'hui.
Oui.
Complètement légitime. Donc qu'est-ce que vous mettez en place en ce moment pour faire en sorte de passer ce cap un peu, cette dépression.
Il se trouve que Olivier m'a fait découvrir un chanteur. Il m'avait dit, il faut que tu écoutes ce mec, il faut que tu le rencontres, il faut que tu lui parles, parce que à la fin de chaque concert, il vient parler avec tous ses fans, il les connaît, il leur écrit, c'est un chanteur canadien. Et sur le coup, je prête pas tellement, j'avais pas fait, pourtant, je suis très fan de musique et tout, j'avais pas écouté. Et c'est après son décès, peut-être, 4-5 mois après. Je relisais sans cesse nos conversations. J'étais à fond dans forcément dans la déprime. Mmh. Et je retombe sur cette phrase où il me redonne le nom de ce chanteur et j'y tiens, je vais l'écouter, j'ai jamais...
Oui.
Bon, et j'écoute et ça, il m'a attrapé, on va dire, dans son univers complètement.
Et il s'appelle comment cet artiste ?
Alex Henry Foster, donc pas très connu en France, mais ces mots, déjà sa musique, parce qu'au début ça a commencé comme ça, bien sûr, la musique au milieu de la nuit qui est un peu il est assez dur à mettre dans une catégorie,
oui.
Mais on va mettre un peu dans du gothique romantique, un peu à la Lou Reed, un peu à la Pink Floyd, il y a un peu de Cure, un peu de U2, il y a un peu de, je sais pas, un grand mélange d'influences de tout genre.
J'ai préparé, là, je suis allée sur internet, j'écouterai après l'émission. Je penserai à vous. Voilà.
Bon, les chansons font entre 15 et 20 minutes en plus, donc c'est pas très facile pour passer en antenne. Mais et donc voilà, j'ai été complètement parce que j'ai eu une grande période gothique, donc ça m'a complètement parlé de suite.
Ouais, ça vous fait du bien.
Et je me suis plongée dans son univers et comme il est très proche, comme je dis, à la fin de chaque concert, il vient voir tout le monde, il peut prendre 3 minutes si la personne veut juste une photo, un autographe, mais il peut parler avec la personne pendant une demi-heure. Moi, notre première rencontre, on s'est parlé pendant 30 minutes, quoi, parce que entre-temps, on s'était échangé. Il est très facile d'accès, il aime l'humain.
Mmh.
Et du coup, là, il est en tournée européenne et il fait des dates à Paris et début août, justement. Et il finit sa tournée le 12 août.
D'accord.
En Allemagne. Et moi qui ne fête jamais mon anniversaire et qui voulais encore moins le fêter depuis 2 ans, je me dis. Et que lui, c'est réellement lui qui m'a donné envie de.
Ah, très bien.
De revivre. Parce que lui a été très marqué par les suicides aussi et la mort. Et,
d'accord.
A pris le temps de travailler.
Oui, donc ça fait écho. Ça fait écho.
Ça et fait écho.
En parlant d'humains, vous avez reçu 2 très jolis SMS. Sophia, qui vous dit
oui.
Que d'humanité chez Constance, je l'embrasse fort. Et Coralie, qui vous dit j'adore la façon de parler de cette dame, je pourrais l'écouter longtemps avec plaisir.
Alors en plus, je suis très bavarde, donc heureusement que l'émission a une fin un moment.
Je me joins à Sophia et Coralie. Merci infiniment de ce témoignage parce que effectivement à travers ce que vous nous racontez on se dit waouh, si on tombe amoureux et finalement c'est peut-être il faut le dire parce que la vie ne tient qu'à un fil hein.
Oui, tout à fait,
c'est vrai, et puis tant pis, on ne sait pas ce qui se passe après, mais bon sang, c'est tellement court, cette vie est tellement courte et on n'en a qu'une, donc
c'est ça.
Donc là, profitez, Constance, de cette chance que vous avez d'être encore vous vivante, de pouvoir profiter comme ça de ce que vous aimez, de prendre la voiture, même si vous dites que vous êtes barré pour faire 700 km, et d'aller voir donc Alex Henry Foster.
Par exemple, mais je vais le faire parce que donc je viens à Paris et après je vais faire 2 dates en Allemagne, donc oui, effectivement, voilà.
Et vraiment, je vous souhaite de le meilleur pour la suite, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un, si c'est votre souhait, qui vous apportera également du bonheur comme vous en apportez manifestement autour de vous.
Je ne sais pas si je suis encore prête pour ça, mais à en donner, oui. À en donner, oui. Et à être.
Prenez votre temps surtout.
Oui.
Je vous embrasse, je me permets de vous embrasser. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et donc, un grand merci pour cette émission, ce qui était très, très riche en émotions. Donc, merci à Kevin, merci à Marie, merci à Constance. Vraiment, vous êtes des étoiles incroyables. Et nous retrouvons lundi pour de nouvelles confidences. Et vous avez rendez-vous avec Valérie Darmon ce week-end qui prendra soin de vous. Douce nuit.